Alors, on raconte l'histoire de d'un vieil homme qui vivait dans une île à côté d'une plantation de canne à sucre. Et un jour, ce vieil homme passe devant la propriété de canne à sucre et aperçoit des ouvriers en train d'abattre un arbre centenaire, un immense arbre. Il le coupe avant de brûler chaque morceau. Alors, le vieil homme s'interroge, mais que faites-vous? Cet arbre est une nuisance. Le propriétaire nous a demandé de le couper. Alors le vieil homme crie au propriétaire qu'il apercevait au loin, mais monsieur, est-il possible que vous me donniez un morceau de cet arbre? Cet arbre est une nuisance. Nous le coupons et nous le brûlons parce qu'il gêne notre progression. Puis-je récupérer un tout petit bout de votre déchet? Le propriétaire, agacé, répond: Prenez ce que vous voulez et allez-vous-en. L'homme récupère un gros morceau de tronc qu'il réussit à hisser sur ses épaules et il titube jusqu'à sa case, sous les regards amusés et parfois moqueurs des autres villageois. Il arrive dans son cabanon et fait quelque chose de rare dans nos vies. Il prend son ciseau à bois et son marteau et fait plusieurs fois le tour de ce tronc. Il tourne plusieurs fois, il semble voir quelque chose dans le tronc d'arbre. Et après avoir tourné une dizaine de fois, il prend son marteau et son ciseau à bois et commence à tailler dans le tronc. Il travaille toute la nuit. Toute la nuit. Acharné avec son marteau et son ciseau à bois. Et au petit matin, il réussit à libérer un magnifique aigle doré. Il est si fatigué qu'il s'effondre au milieu des copeaux à 5 ou 6 heures du matin, en serrant fort l'aigle qui venait de libérer du morceau de bois. Et le lendemain, il se lève et il hisse l'aigle au-dessus de sa hutte, sur le porche de sa petite hutte. Et quelques jours plus tard, le propriétaire de la plantation passe devant la hutte. Et il aperçoit ce magnifique aigle. Alors il demande à son chauffeur de s'arrêter et il interpelle le vieil homme: Où avez-vous eu cela? Alors le vieil homme répondit: Pourquoi? Cela vous intéresse? Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Je suis prêt à vous en donner 30 000. 30 000 euros pour cet aigle. Alors le vieil homme, réfléchissant à tout ce qu'il pourrait faire avec ces 30 000 euros, accepte sur le champ. Le propriétaire remonte dans sa voiture, tout content d'avoir eu cette acquisition pour 30 000 euros. Il pensait que ça valait beaucoup plus. Et tandis que la voiture s'éloigne, le vieil homme regarde le chèque avec un grand sourire en disant: Le déchet de l'un est le trésor de l'autre. Le déchet de l'un est le trésor de l'autre. Je crois que ce tronc, ce morceau de bois, ce sont certains d'entre nous ce matin. Vous vous voyez peut-être comme une masse informe, un simple tronc, un bloc. Et Dieu vous voit comme un aigle majestueux. Tout est une histoire, tout est une affaire de vision sur nous-mêmes. Ou alors ce sont peut-être les autres qui vous voient en chantier ou comme une chose inachevée. Ils ont peut-être une image déformée de vous. Ou tout simplement, vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vos rêves, ou pire, qui ont brisé vos rêves. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu vous voit comme un aigle planant au-dessus des sommets. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ésaïe 40 au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, au verset 31, et le titre de mon message ce matin, « Prendre son envol comme l'aigle ». Ésaïe nous invite à nous confier en l'Éternel, c'est-à-dire nous confier, c'est-à-dire lui faire confiance. Et si nous faisons confiance en l'Éternel, eh bien, il renouvelle nos forces et nous élève comme l'aigle. Autrement dit, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel sont comparés à des aigles. Et nous verrons aujourd'hui trois caractéristiques de l'aigle que nous pourrons appliquer à nos vies. Trois caractéristiques de l'aigle. La première caractéristique, c'est la capacité de l'aigle à prendre de la hauteur. La capacité de l'aigle à prendre de la hauteur. Alors, savez-vous à quelle hauteur peut voler un aigle ? À quel 3000 mètres ? Oui ? D'autres propositions ? C'est déjà beaucoup, hein ? Qui dit mieux ? 5000 ? 500 mètres ? Donc ça va entre 500 mètres et 5000 mètres ? Voilà. Alors, bon, je me suis quand même renseigné pour préparer ce message. Et j'ai vu qu'un aigle pouvait voler jusqu'à 6000 mètres, donc 6 kilomètres. Dans le ciel, 6000 mètres. Le record qu'on a pu mesurer, c'est 6500 mètres. C'est haut. Donc vous imaginez à cette hauteur ce que l'aigle peut voir d'en haut. Ésaïe 40, au verset 31, dit que si nous nous confions en Dieu, il nous fera prendre notre envol comme l'aigle. Il y a trois façons pour un oiseau de prendre son envol. La première façon, c'est de battre des ailes, pour tenter de s'envoler. Ça demande beaucoup d'efforts et c'est pas forcément très gracieux. On peut le voir parfois, les canards sur un étang essayer de s'envoler, ça peut prendre un certain temps pour qu'ils réussissent à prendre de la hauteur et avec le risque peut-être de s'épuiser rapidement. La deuxième façon de prendre son envol, c'est de se lancer d'une falaise ou d'un arbre et de déployer ses ailes et de se lancer dans le vide. Alors ça demande du courage parce que ça demande de la foi en ouvrant ses ailes, la foi qu'on va pas s'écraser, se cracher sur le sol. La troisième façon, c'est comme les aigles, se laisser aspirer par des courants ascendants qui permettent d'atteindre rapidement de très grandes hauteurs sans se fatiguer. Et si nous nous confions en Dieu, eh bien, il a cette capacité de nous élever dans des hauteurs incroyables. Il a cette capacité, et on a cette capacité de réaliser de grandes choses, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ça, c'est si nous nous confions en l'Éternel. Mais bien souvent, il faut le reconnaître, nous nous confions en nous-mêmes, en nos propres forces, en nos capacités. Et nous sommes tellement pris parfois dans nos problèmes, dans nos soucis de la vie quotidienne, que nous ne prenons pas suffisamment de hauteur et nous nous fatiguons. Nous nous fatiguons à nous battre contre nous-mêmes, parfois nous battre contre les autres, et souvent nous nous battons contre les circonstances et nous nous épuisons. Mais Ésaïe dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et une autre caractéristique de l'aigle, c'est que c'est le seul animal qui ne fuit pas quand vient la tempête. Quand vient l'orage, tous les autres animaux s'enfuient. La marmotte, le renard courent dans leur terrier, les oiseaux se cachent dans leur nid ou dans les arbres. L'aigle, lui, se précipite dans la tempête. Et quand il se précipite dans la tempête, il est comme propulsé au-dessus du chaos, et ceci sans jamais battre des ailes. Donc il ne se fatigue pas. Il utilise juste la force des vents contraires pour s'élever. Les courants ascendants, c'est l'image du Saint-Esprit, l'image de l'Esprit-Saint. On a juste à se laisser porter, aspirer par le Saint-Esprit. Il nous faut, frères et sœurs, nous laisser porter par le Saint-Esprit pour prendre de la hauteur, parce que de nos propres forces, nous ne pouvons rien. Et quand on se laisse aspirer par le Saint-Esprit, eh bien, il nous conduit là où il le désire, pas forcément là où on le désire. On a parfois une vision de comment il faudrait faire les choses, mais Dieu, il a son regard, il a sa vue d'ensemble, il sait ce qui est bon pour nous, et il sait nous conduire à sa façon, parce que c'est le bon berger, et il sait nous conduire dans des verts pâturages. C'est comme cela que Dieu souhaite procéder avec nous, nous conduire, nous aspirer. Alors j'ai une question, quelle attitude adoptons-nous au milieu du chaos ? Quelle attitude adoptons-nous au milieu du chaos ? Et j'aime cette phrase qui dit « Notre attitude détermine notre altitude. Notre attitude détermine notre altitude. » Ça rejoint ce que dit Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 2. « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc Dieu veut utiliser ton épreuve pour te faire grandir, pour que tu prennes de la hauteur. Alors tu peux utiliser la tempête pour la dépression ou tu peux l'utiliser pour l'altitude. Autrement dit, tu peux te laisser terrasser dans les difficultés par l'épreuve ou tu peux utiliser les éléments qui se déchaînent pour monter encore plus haut. Monter plus haut, plus proche du cœur de Dieu. Car plus on monte et plus nous nous rapprochons de Dieu. Donc la première caractéristique de l'aigle, c'est qu'il a cette capacité à prendre de la hauteur. La deuxième caractéristique, c'est sa vision acérée. Sa vision, l'aigle, c'est l'animal qui a la vision la plus précise, la plus fine de toutes les espèces. Il est capable de voir un animal, un rat de 10 cm, à près de 1500 mètres, 1 km, 1 km 5, il arrive à percevoir un rat, un serpent. Et une fois qu'il a repéré sa proie, eh bien, il fond à plus de 300 km. Il fond sur sa proie et rien ne l'arrête. La pluie ne l'arrête pas, le vent ne l'arrête pas, les éléments qui se déchaînent, les autres animaux, les autres oiseaux qui pourraient croiser ne l'arrêtent pas. L'aigle a une vue d'ensemble, mais il est concentré sur son objectif, sa proie. La particularité de l'aigle, c'est qu'il a conscience de tout, mais qu'il reste fixé sur son objectif. Certains d'entre vous, peut-être, ont été découragés. Vous avez été déconcentrés, détournés de votre objectif. Mais Dieu vous invite à reprendre la vision qu'il vous a donnée. Peut-être revenir dans ce lieu secret où vous avez reçu une parole de Dieu, une vision. Revenir dans ce lieu où il vous a parlé. Et dans ce lieu, dire à Dieu, « Père, tu m'as donné cette vision, tu m'as parlé, mais les soucis, le temps, les circonstances m'ont éloigné de cette vision. Alors j'ai besoin que tu viennes rafraîchir cette vision. » Et parfois, si ce sont les larmes qui ont troublé votre vision, eh bien, demandez à Dieu la consolation. Parce que parfois, il faut reconnaître la tristesse, les circonstances difficiles, la perte d'un être cher nous troublent, viennent comme troubler notre vision et c'est là qu'on s'éloigne du but et de l'objectif de nos vies. L'objectif que Dieu, les projets que Dieu a pour nous. Eh bien, revenons dans ce lieu secret là où le Seigneur nous a parlé pour peut-être nous réconcilier avec la vision qu'il nous a donnée. La vision de l'aigle, c'est l'image de la vision spirituelle, la capacité à prendre de la hauteur sur les circonstances. Il faut distinguer la vue et la vision. Des fois, nous marchons par la vue et Dieu nous demande de marcher selon sa vision, de ne pas regarder aux circonstances, de ne pas regarder finalement dans le naturel, mais de regarder dans le surnaturel. C'est parfois difficile, mais comme l'aigle voit comme aucun autre animal, nous pouvons aussi, nous sommes appelés en tant que croyants à voir au-delà des circonstances. Et pour illustrer ce propos, je vais demander à Anne de venir me rejoindre pour vous donner un petit témoignage, comment elle a pu, par le passé, faire fi des circonstances et du naturel pour regarder dans le surnaturel, dans la vision que Dieu lui avait donnée.
Alors bonjour à ceux que je n'ai pas vus. La plupart de vous me connaissent, j'ai comme un peu grandi dans cette église. Donc c'est toujours chouette de témoigner et de voir ce qui se passe dans cette église, même les choses qu'on ne voit pas forcément. Dieu agit. Quand Serge m'a demandé ce matin, il me dit « Ah, j'ai préparé mon message, puis ça serait chouette que tu illustres. » Alors, j'ai rien préparé, c'est très spontané, le Saint-Esprit va m'inspirer, amen. En tout cas, je voudrais juste témoigner que dans les années de désert que j'ai pu traverser, combien c'était important, de, comme il a expliqué, d'avoir cette vision, cette hauteur, de dire « Ok, ma vie, elle est chaotique. Mon quotidien, il est très compliqué. Mais je ne veux pas regarder aux choses, aux circonstances de la vie. Se dire, OK, Seigneur, rien ne me fait espérer, enfin, rien ne me dit que ça va changer, mais je te fais confiance parce que tu me l'as promis que mon avenir est bon. Voilà. Alors, en quelques mots, hein, parce que ça serait très très long de vous réexpliquer tout ce que j'ai parcouru, mais en gros, je me rends compte dans la préadolescence que je suis attirée par les femmes et que je n'ai aucune attirance pour les hommes. Ok, je réalise au fur et à mesure que bah, ça se confirme et puis que je me dis, voilà, ma vie, elle va être compliquée. À côté de ça, j'aime le Seigneur, j'aime l'Église, j'aime... Je m'accroche en fait aux promesses de Dieu, à ce qu'il dit dans sa parole. Même si on ne le voit pas super fort dans cette église, je sais qu'il y a plein de miracles et que Dieu, forcément, il agit et puis il fait des choses miraculeuses. Donc je m'accroche à ça, je vais sur Internet, je cherche des témoignages en me disant « Ok, je ne connais pas dans cette église ou dans le pays de Montbéliard des gens qui ont réussi à sortir l'homosexualité, mais Seigneur, il n'y a rien qui t'est impossible. » Donc je m'accroche, je me dis « Seigneur, ok, on va trouver des témoignages. » Donc, je fouille Internet, et puis là, ben, franchement, j'ai galéré à en trouver. Pourtant, Internet, c'est large, ça brasse voilà, très, très peu. Très, très, très peu. Et en fait, les très peu que j'ai trouvés, malheureusement, avec les années, c'était compliqué. Ok, malgré ça, je me dis, ok, Seigneur, alors il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où j'ai flanché, mais en fait, quand on regarde pas aux choses terrestres, mais qu'on garde cette vision de dire « Ok, Seigneur, tu le promets, et tes promesses sont sûres et certaines. » Je sais pas quand, je sais pas combien de temps, je sais pas comment, mais j'ai foi, et je refuse les paroles des gens qui me disent « Faut que tu restes comme ça toute ta vie. » Non, Seigneur, jamais dans ta Bible, tu as dit « Tu vas galérer toute ta vie. » Tu as dit dans ta Bible que la vie de chrétienne, c'est pas que du bon. Bah, ça, je l'ai déjà expérimenté, je le sais. Mais tu dis que mon avenir est bon, et je le croyais, et je me suis accrochée à ça. Voilà. Alors, je savais pas comment, je savais pas... voilà. Mais je m'accrochais au fait que j'allais pas devoir souffrir toute ma vie. Voilà. Donc, je veux vraiment vous encourager à toujours garder ce regard de l'aigle qui vient au-dessus, vraiment tout au-dessus de ce que vous croyez vous-même, des mensonges que vous croyez sur vous, de ce que la société dit que vous êtes. Regardez à Dieu. Vraiment, regardez à Dieu. Voilà. Et puis, bah, ça a bien fini, hein. Vous me voyez mariée avec deux enfants. Amen. Faut que je vous raconte ça aussi. Tu m'as dit que j'avais tout mon temps. Rapidement. Donc bon, je vous passe les détails, mais je fais un long parcours pour guérir tout ce qu'il y a à guérir avec le Seigneur, le Saint-Esprit, voilà, fait un gros travail en moi. Et puis arrive le moment où je me dis, ok Seigneur, je suis débarrassée des luttes sexuelles, vraiment, j'avais plus d'attirance pour les femmes. je galérais plus dans le secret de ma chambre avec la pornographie, la masturbation, et puis tout je vous passe, mais tout ce qui me passait par la tête de vraiment pas propre. J'étais débarrassée de ça, mais pour autant, je me disais, Seigneur, j'ai aucune attirance pour les hommes. Alors, bon, c'est pas mal de vivre comme ça, déjà. Déjà, je souffrais beaucoup moins. Voilà, c'est déjà pas mal d'être débarrassée de ça. Mais je me disais, bon, ben voilà, Seigneur, j'aspire au mariage, j'y crois, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, voilà, je veux quand même un mariage accompli et pas un mariage de raison. Donc, mais voilà, j'étais comme ça. Et puis, je prie et je dis au Seigneur, OK, jusqu'à présent, les hommes qui se sont intéressés à moi, je ne m'y intéressais pas du tout. Donc, je fais cette prière très sincère. Seigneur, tu vois que je suis zéro attirance pour les hommes, mais j'aspire au mariage, je veux fonder une famille. À partir de maintenant, le prochain qui s'intéresse à moi, je ne sais pas si c'est mon futur mari, mais je te fais la promesse de m'y intéresser, de lui laisser une chance, de te demander de voir avec toi, de cheminer avec lui et voir si c'est mon futur mari. Ok, je fais cette prière. Et puis, Serge arrive quelques mois après, deux mois après, cette prière très sincère. Et puis, Serge me propose d'apprendre à le connaître. Je lui dis oui par réponse à cette prière, voilà. Mais aucune attirance. Si je trouve très bel homme, mais ça suffit pas. On trouve plein de gens beaux, mais voilà, ça ne suffit pas pour se marier. Donc très touchée qu'un bel homme s'intéresse à moi, mais je me dis Seigneur, oula, ok, il va falloir que tu m'aides. Ça c'est la première étape. Et puis en fait, trois jours après qu'il me demande ça. Je me réveille le matin, et puis là, je me réveille, j'étais vraiment éveillée. La première chose que j'entends, c'est le Seigneur qui me parle et qui me dit juste ça. Anne, Serge, c'est ton mari. J'ai jamais plus entendu le Seigneur parler comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est clair, c'est net, c'est dit avec une puissance et une autorité où j'ai juste pu dire OK. OK. J'ai un rire nerveux sur le moment parce que je ne sais pas, c'est comme ça, je me mets à rigoler, mais à la fois d'excitation, de peur, de tout, une vague d'émotions, je ne sais pas trop comment. Okay. Mais je savais que c'était mon mari. OK. Pour moi, on allait se marier 10 ans après. Je me suis dit, OK, le chemin va être long. Je me réserve pour lui, OK, mais ça va être long. Et en fait, on s'est revus que quelques temps après. On avait cette conviction, les deux. On a prévu un mariage 1 an après, juste le temps de l'organiser, quoi. Voilà. Donc là encore, sur une parole de Dieu, une promesse, une autorité, enfin, voilà, Dieu dit qu'on ne remet pas ça en question. OK, on y va. Et puis, tu vas faire le reste, Seigneur. On lui fait confiance. Et en fait, très vite, une fois qu'on lui a fait confiance, une fois qu'on est parti dans sa promesse, très vite, les sentiments, le désir est arrivé. Et on a un mariage très épanoui, sur tous les plans, le plan sexuel aussi se passe très, très bien. Donc, quand Dieu dit, quand Dieu promet, il va jusqu'au bout. Ouais, ses promesses vont jusqu'au bout, vraiment. Et puis, dans cette période d'attente, c'est long, c'est dur, c'était pas beau tous les jours, il y a eu des hauts et des bas, mais gardons les yeux fixés, et puis laissons de côté les mensonges qu'on entend des fois, même dans l'église, parce que les gens veulent bien faire. Taisons les mensonges de la société, les mensonges qu'on a sur nous, et regardons vraiment à Dieu. Amen.
Merci, c'est super pour un témoignage spontané, parce que c'est vrai que je l'ai prévenu à 9h ce matin dans la voiture, en disant « tu veux pas compléter mon message ?» Donc merci pour la spontanéité et puis pour ton cœur. Voilà, Anne vous a donné un témoignage mais concernant l'homosexualité, mais on pourrait mettre n'importe quoi, n'importe quel autre... fardeau, n'importe quelle autre blessure, la dépression, la solitude, la pornographie, les luttes de toutes sortes, les maladies. En fait, Dieu nous demande, Dieu nous invite à voir comme l'aigle voit avec de la hauteur, quelles que soient les circonstances, tout ce qu'on peut rencontrer. C'est qu'il a sa vision pour nos vies. Il veut que nous adoptions sa vision des choses et non pas notre regard sur nos circonstances, parce que c'est vrai que si Anne s'était arrêtée à son regard sur sa vie, il n'y avait pas beaucoup à attendre et à souhaiter de ce monde finalement, par rapport à ce que, au fait que tu voulais fonder un foyer, si tu t'étais arrêté à ta vue charnelle, à la vision des choses, aux circonstances, il y avait peu de choses à espérer. Mais Dieu est au-delà de ça, au-delà de tous nos fardeaux, de tout ce qui pèse sur nos cœurs. Et lui, il a ses promesses qui sont oui et amen, ses promesses qui sont parfaites. Donc, dans les moments obscurs, quand tout semble fini, fermé, gardons la vision que Dieu peut l'impossible dans nos vies. Et une dernière caractéristique de l'aigle, eh bien, c'est la solitude. L'aigle est un animal solitaire. Quand on vole à 6000 mètres, on peut imaginer qu'on ne croise pas grand monde, hein, si ce n'est peut-être un autre aigle. Mais voilà, l'aigle à cette hauteur rencontre peu d'animaux. Quand on sert le Seigneur, il faut accepter une part de solitude. Il faut accepter de marcher à contre-courant du monde, accepter parfois aussi de ne pas être compris, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et beaucoup de leaders, beaucoup de serviteurs ont témoigné et témoignent de cette solitude dans le service. Mais comme l'assure Ésaïe, ils courent, mais ne se lassent point. Il y a des saisons de souffrance où l'on doit courir juste pour survivre. Mais Dieu promet, je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il y a des saisons de ministère où l'on doit avancer vite, mais Dieu fait cette promesse, je ne t'abandonnerai jamais, je te soutiendrai dans l'épreuve. Et comme l'assure Ésaïe, il marche et ne se fatigue point. Donc on peut courir sans se lasser et on peut marcher sans se fatiguer. C'est bizarre parce qu'on aurait pu faire le contraire, parce que quand on marche, on a tendance à se lasser. Et là, la parole dit, il marche, mais il ne se fatigue point, parce qu'en réalité, la marche quotidienne, constante, est parfois monotone. Et on est amené parfois à s'arrêter en pleine marche. C'est durant la marche quotidienne, en répétant parfois les mêmes choses, qu'on peut laisser tomber des fois. On peut se décourager. Et dans la routine de nos vies, Dieu dit, même là, dans la marche quotidienne et parfois monotone, je serai ta force. Je serai ton soutien pour que tu continues ta marche sans te décourager. Donc la solitude du serviteur, oui, mais l'Église est là aussi, comme un havre de paix où on peut venir se reposer, se réfugier, se soutenir les autres et être soutenu par les autres. La solitude du serviteur, oui. Mais la bénédiction de l'Église, la collectivité de l'Église pour nous aider dans notre marche et dans notre service pour Dieu. Alors en résumé, voilà trois caractéristiques. On aurait pu en prendre d'autres, hein. J'ai choisi la capacité à prendre de la hauteur, la capacité à adopter la vision de Dieu, la vision de l'aigle précise, avoir tout, mais à cibler un objectif. Et l'autre caractéristique, la solitude, parce que ça fait partie aussi, oui, de quand on sert Dieu dans ce monde déchu, ça fait partie parfois du lot du serviteur de traverser cette vie un peu seul. Mais Dieu est là, et les frères et sœurs sont là, et heureusement. Je peux terminer par la prière. Merci Seigneur pour ce rappel ce matin. Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est cette parole que tu voulais peut-être nous rappeler ce matin. Parce que parfois la marche, il faut le dire, la marche est parfois difficile. Et les difficultés de la vie font qu'on peut s'arrêter, on peut s'essouffler, on peut se sentir découragé. Mais ce matin, je te prie, Seigneur, de venir encourager ton peuple, d'encourager tes brebis ce matin, celles qui te connaissent, celles qui te servent, celles qui t'aiment. Et encourage les Seigneurs, toi qui es le bon berger, toi qui sais où conduire chacun. Alors merci Seigneur d'apporter le réconfort dont chacun a besoin, ou la parole d'encouragement dont chacun a besoin, pour que personne ne reparte ce matin de ce lieu sans avoir reçu une parole qui vient de toi. Merci Seigneur. Amen.